Le podcast La Chamane est un espace de réflexion libre qui jette un regard hors du commun sur des sujets et des problématiques de tous les jours. Médiumnité, chamanisme, psychologie, neurosciences, intuition, santé holistique et j'en passe. Je suis Amy Gale, votre chamane qui décortique avec vous de nombreux sujets qui ont un impact profond sur nos vies. Toujours avec comme mission la croissance spirituelle et l'épanouissement de chacun.
Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver après une pause. J'ai dû arrêter au fond pendant une semaine, donc ça fait 2 semaines que je ne vous ai pas sorti un épisode. Et puis comme il y a quand même une petite communauté qui est en train de se bâtir autour de la chamane, je me sens quand même responsable de vous donner des nouvelles et d'être là. Et je vous dis tout de suite que cet épisode-ci va être très personnel. J'ai pas le choix de le faire comme ça parce que c'est... En fait, c'est drôle parce que mon ego, je me rends compte que c'est mon ego, me dit sans cesse de d'arrêter de faire des épisodes trop personnels et de vous donner du contenu. Et pourtant, je me rappelle que dès le début, ce podcast-là a commencé en étant très personnel et que le contenu, les ressources, les lectures, les idées viennent de cette façon-là. Donc, je dois me rappeler sans cesse que ce podcast est un journal personnel et que c'est la formule non seulement que j'ai choisie, c'est la formule imposée. Et je suis super émue, je pense que vous le sentez dans ma voix en ce moment, parce que j'apprends à travailler avec mes guides. Je vous en ai parlé dans l'épisode sur la clair-sentience. Et ben, je me rends compte que ça fait très longtemps en fait que je leur dis que je trouve que ça va pas assez vite, que je progresse pas assez vite. Je le dis à mon entourage aussi. Mais pourtant, ça va tellement vite. Avec le podcast, je reçois des messages à toutes les semaines de personnes qui me remercient, qu'un épisode en tant que tel les a aidés ou que tous les épisodes les aident. Des gens qui sont dans leur processus aussi, qui commencent. Et j'aimerais tellement vous donner le plus de stock d'informations possible parce que moi-même, je l'ai cherché tellement longtemps. Mais j'oublie que les gens que j'appelle à moi sont probablement des gens qui sont un peu au même stade que moi. C'est comme ça que ça fonctionne aussi, la loi de l'attraction. On attire à nous les gens qui nous correspondent et je vous parle toujours de l'importance de trouver sa tribu. Et en 2018, on est dans une année où on trouve notre tribu, on trouve notre famille, on trouve les gens qui nous ressemblent, les gens avec lesquels on va travailler. C'est ça qu'il y a dans l'énergie en 2018, je vous en ai parlé dans l'épisode qui était spécifiquement là-dessus. Et vous pouvez aller voir dans les archives. Et là, je dois vous dire, en fait, j'ai eu... Vous le savez forcément si vous écoutez cet épisode, mais j'ai eu à modifier mon hébergeur. Et c'est une des raisons pourquoi il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. J'ai eu à changer d'hébergeur et ça fait en sorte que je ne sais pas trop comment faire le suivi entre les épisodes. Alors, je ne sais pas à ce moment-ci comment ça va se passer quand vous écoutez l'épisode en ce moment. Mais si jamais vous n'avez pas accès à partir d'iTunes... mon nouvel hébergeur s'appelle Podbean. Si jamais vous n'avez pas accès, allez sur le site internet ethicaveridis.ca. Donc ethicaveridis.ca. C'est mon site internet. Et allez sous l'onglet podcast. Toutes les archives sont là. Donc c'est vraiment la place pour rien perdre. À partir de maintenant, j'espère qu'avec le changement d'hébergeur, j'aurai plus aucun problème et que ça se reproduira pas. Avec l'hébergeur que j'avais pas les statistiques, donc j'avais juste les téléchargements. Alors j'étais rendue à 50, 60, 70 téléchargements par semaine. Et je sais qu'il y a plein de personnes aussi qui écoutent les épisodes par streaming, par écoute en direct sur Internet. Donc je pouvais pas savoir. Alors je pense qu'avec Podbean, j'aurai plus d'informations et ça me sert à moi de pouvoir la croissance aussi de tout ça et ça me motive énormément. Les gens qui m'écrivent, ça me motive énormément, mais il y en a plein, je sais, qui m'écrivent pas, donc et c'est vraiment pas un problème parce que je veux que ce soit naturel pour vous. Mais donc ça me permet de savoir en fait qu'est-ce qui se passe avec tout ça, si c'est en train de prendre de l'expansion. Alors c'est ça, il y a ça qui est arrivé, j'ai eu un gros mal de dents que j'ai soigné naturellement et mais vraiment en fait je me demandais, c'était très 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 douloureux et je me demandais la semaine passée si j'allais devoir aller faire arracher ma dent. C'est une dent qui est brisée, qui est cassée en surface et ben je sais que c'est plus sensible dans ce temps-là, je crois avoir eu un abcès en fait et je l'ai soigné avec les huiles essentielles, avec une prise de conscience parce qu'on dit que toute maladie, toute douleur vient
de l'intérieur, en fait. On appelle le petit jeu de mots le mal-a-dit pour une maladie. Et bien, je suis allée voir, j'aime beaucoup Louise Hay, je suis allée voir la signification qu'elle donne aux problèmes physiques. Et bien, le mal dedans, c'est l'incertitude. Et ma vision se clarifie de plus en plus avec le temps, mais ceux qui sont proches de moi savent que j'ai beaucoup de difficultés à voir exactement où je m'en vais. Et le podcast m'aide beaucoup à focusser ce qui se passe autour de moi. Je reste à l'affût, mais c'est ça, je me sens encore beaucoup éparpillée, beaucoup moins par contre qu'il y a un an. Alors, je vois le cheminement, mais comme je vous dis, j'arrête pas de dire à mes guides que je trouve que ça va pas assez vite. Et pourtant, je reçois des messages de partout. Je vois que tout se place, mais je voudrais tellement être déjà rendue où j'aimerais être dans 10 ans. Donc, ce dont on va parler, en fait, dans cet épisode-ci, je vais vous faire un mélange de plusieurs petites choses. Déjà, c'est drôle parce que le dernier épisode était sur l'importance d'être en paix avec notre corps, d'en prendre soin, de l'aimer, de l'écouter, et de comprendre que notre corps est une partie de nous. Alors, si on veut s'aimer pleinement pour prendre de l'expansion, pour progresser, il faut aussi aimer notre corps. Et c'est drôle parce que j'ai terminé cet épisode-là et c'est là que mon mal dedans est apparu et je me suis dit, mais qu'est-ce que mon corps veut me dire? Il m'a dit, maintenant que tu veux m'écouter, je te parle. Et je me suis rendu compte que dans tous les remèdes que j'ai utilisés, les huiles essentielles m'ont aidé parce que j'avais un ganglion enflé, j'avais un canal lymphatique qui était bombé. J'avais un pustule qui était lié à ça parce qu'avec un abcès, il y a du pus et il faut que ça sorte. Donc, c'est pour ça qu'on va chez le dentiste et qu'on se le fait tirer, on se le fait aspirer et on fait remplir la dent ensuite avec un traitement de canal. Mais moi, je ne voulais pas. Je voulais tester mes dons de guérisseuse, voir si je pouvais m'en occuper moi-même et les connaissances que j'ai et en acquérir d'autres. Et c'est ça, les huiles essentielles m'ont aidé au niveau de l'infection, mais vraiment, c'est l'argile verte qui est une redécouverte dans ma vie. Je sais pas si, j'espère que vous avez entendu parler de l'argile verte, que vous connaissez ses propriétés. C'est absolument hallucinant tout ce qu'on peut faire. Si on a des douleurs physiques, on va aller mettre de l'argile. Si on a une infection, on va aller mettre de l'argile. Si on a des problèmes d'acné, moi j'avais eu la première fois que je me suis vraiment soignée sérieusement avec de l'argile verte, j'avais un problème de staphylocoque doré, qui est une infection, qui est une bactérie. J'avais ça sur la peau et ça crée vraiment un peu comme une bactérie mangeuse de chair, en fait. Ça fait des pustules et lorsqu'ils éclatent, ça infecte automatiquement la peau et ça crée d'autres pustules et ça ne fait que se répandre en expansion constante. C'est vraiment hallucinant et ça creuse la peau et ça pique. Un ami m'avait demandé si ça faisait mal, en fait, mon amoureux m'avait demandé si ça faisait mal. J'avais répondu non et 2 jours après, je me suis dit, c'est vrai, ça piquait. Alors, c'est très dur de pas gratter. Et j'avais utilisé l'argile verte parce que déjà ça soulage et ça va en fait aspirer. L'argile aspire l'infection, elle aspire le pus. Alors pour quelqu'un qui a des problèmes d'acné, d'ailleurs c'est drôle parce que je me fais un cataplasme d'argile à tous les jours ou j'en fais 2 si je peux et j'ai presque plus d'acné. J'ai des petits problèmes d'acné au niveau de juste une certaine région dans le creux de mes joues en fait. Et j'ai presque plus d'acné de ce côté-là, alors ça ferait un beau avant-après. Ce serait assez drôle puisque j'ai un côté où j'en ai pas mis et un côté où j'en mets à tous les jours et j'ai presque plus de points noirs, presque plus d'acné. Alors vous voyez tout ce qu'on peut faire avec l'argile, elle va vraiment aspirer le mauvais. On peut même, l'argile verte, on peut la consommer à l'interne. Et elle va faire la même chose. Elle va aller nettoyer le corps, elle s'en va où il faut, puis elle va sortir ça. Alors on y va tranquillement aussi, et je vous recommande de faire une bonne recherche, de vous informer avant de faire ça, savoir quelle quantité on doit prendre. Ce que j'avais vu, c'est que c'était une cuillère à thé dans un verre d'eau, mais moi j'irai progressivement. Je commencerai avec un quart, ensuite une demi, ensuite 3 quarts, ensuite une cuillère à thé. Mais je vous invite vraiment à faire la recherche vous-même. Et c'est ça, donc en fait, les jours où je recommence à avoir un peu mal, parce que là, mes ganglions, mes canaux sont désenflés, mais j'ai encore un peu des douleurs parfois, et c'est drôle parce que c'est souvent lié à mes pensées, alors je fais très attention à ce que je pense en ce moment, et ben c'est ça, quand la douleur revient tout de même, je me fais un cataplasme d'argile, et c'est hallucinant comment c'est pas long, comment tout redevient correct. Je remercie la Terre. C'est beau, en fait, la première journée que je l'ai fait, j'avais envie de pleurer parce que ça m'a rappelé à quel point la Terre nous donne tout. Et les Amérindiens le savaient si bien que toute la médecine dont on a besoin se trouve sur cette Terre et dans cette Terre. c'est une magnifique façon de se grounder, d'aller s'ancrer à la terre, que d'utiliser ses remèdes et de la remercier. Et l'argile verte, c'est de la terre. Donc, de l'utiliser, surtout en ce moment, ici au Québec, le printemps commence à peine. On ne peut pas encore vraiment se promener pieds nus parce que le sol est très froid et on n'a pas des températures très élevées encore. On est loin de pouvoir aller dans l'eau, de pouvoir aller marcher nu-pieds sur le bord du lac. Quand on a l'argile, en fait, ça nous permet vraiment d'avoir le même effet, d'avoir l'effet qu'on aurait si on allait marcher pieds nus dehors. C'est sûr que ce ne sera jamais semblable, mais cette énergie-là est là. Et je reçois, en fait, cette semaine, ça m'est revenu constamment en tête, que l'argile verte, pour toutes les personnes qui ont une aura de couleur verte, c'est extraordinaire. Et je comprends pourquoi je suis autant attachée à ça, parce que je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 5, je crois. J'ai une aura qui a une prédominance vert émeraude, qui est l'aura des guérisseurs, en fait. Et je comprends pourquoi, quand je touche à de l'argile verte, je me sens mieux. Je crois que c'est une merveilleuse façon de se recharger. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a autant l'élément terre que l'élément eau, puisqu'on doit mettre cette argile dans l'eau pour l'activer, pour se faire une espèce de boue. Et en fait, les gens qui ont une aura verte ou bleu-verte sont directement connectés à l'élément eau et à l'élément terre. Donc, on retrouve les deux, alors ça nous recharge vraiment. Moi, je pense que, surtout que je vais avoir quelque chose à l'avenir, ça va toujours me prendre de l'argile verte. Alors, je vous invite à découvrir ce magnifique remède. Sinon, j'ai utilisé plein d'huiles essentielles qui sont antiseptiques, anti-inflammatoires, comme le tea tree, pas anti-inflammatoire, mais je voulais dire anti-infectueuses, qui sont antibiotiques. Donc, j'ai utilisé le tea tree, le clou de girofle, l'origan. Chez doTERRA, on a un mélange qui s'appelle le On Guard, donc ça met en garde, alors ça protège le système immunitaire. J'ai utilisé le thym, je me suis fait des tisanes aussi, tisanes de thym, tisanes d'églantier et d'hibiscus qui vont aller en fait nettoyer le sang. Alors le danger quand on a un abcès et qu'on le soigne pas, qu'on va pas le faire enlever, c'est que ça infecte le sang. Donc je suis allée en prévention, j'ai pris de la vitamine C aussi. Alors vous savez, il y a toujours, c'est toujours possible je crois de se soigner de façon naturelle. On dit, comme je vous dis, que c'est juste en fait un message. Toutes les maladies qu'on vit, en fait, j'écoutais la fille de Dolores Cannon. Dolores Cannon qui a élaboré une technique d'hypnose, en fait, qui s'appelle Quantum Healing Hypnosis. En fait, ce qu'elle fait, c'est de l'hypnose régressive, un peu comme Michael Newton dont je vous ai parlé. Je crois qu'elle a sa technique à elle, elle a fondé son école à elle, elle a travaillé sur cette technique-là pendant 25 ans et plus. Son but, en fait, c'était pas d'aller chercher tout simplement les connaissances des vies antérieures. Elle dit « ça sert à rien si ça peut pas nous servir dans la vie présente ». Donc, en fait, elle est allée chercher comment est-ce qu'on peut utiliser la connaissance de notre « higher self », donc de notre âme ou de notre « je suis », qui est, quand on dit « je suis », c'est notre « moi supérieur ». Et d'aller chercher sa connaissance, en fait, de lui demander « Que veux-tu me dire? Pourquoi j'ai cette douleur? Pourquoi j'ai cette maladie? » Et quand le message se rend directement, cette femme qui a pratiqué pendant des dizaines d'années a vu des centaines de miracles dans son bureau. Il y a des gens qui venaient de partout dans le monde pour la voir et ce qu'elle faisait, en fait, c'est des longues séances d'hypnose, donc des 3-4 heures. Et les gens, en étant eux-mêmes hypnotisés, se retrouvaient en contact avec leur être supérieur, et ils recevaient le message. Et elle a vu des gens en chaise roulante qui pouvaient repartir en marchant. Ça me fascine. Je sais qu'on peut faire des choses comme ça avec le Reiki, mais de penser qu'on puisse le faire, elle a dit en fait que l'inconscient, en psychanalyse, on voit l'inconscient comme la partie, l'enfant indompté de nous-mêmes, admettons. Et elle, dans sa vision à elle, elle voit l'inconscient comme l'âme. C'est très intéressant. Alors, c'est d'accéder à cet inconscient-là qui a tout le bagage, toutes les réponses, finalement. Donc, c'est ça. C'est magnifique. Et elle a même pu élaborer, en fait, une liste facile de qu'est-ce que chaque douleur, en général, veut dire. Elle se rendait compte qu'à travers toutes les séances qu'elle faisait, les réponses, les pourquoi de la douleur étaient les mêmes. Alors, elle a fini par en faire une liste. Et là où je voulais en venir, en fait, c'est que elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas une douleur qui existe sans qu'il y ait une raison métaphysique. Sa fille, dans la conférence que j'ai écoutée, disait que notre corps est une machine qui n'a pas été conçue pour être malade. C'est une machine extraordinaire qui peut vivre très longtemps. Et on le voit on le voit dans des peuples qui ont vécu jusqu'à 100, 200 ans et c'était pas une image. C'est réel, c'est possible. Mais c'est vraiment, ça demande d'être conscient. Ça demande de ne pas laisser de blocage à l'intérieur de soi, d'être en accord avec notre chemin de vie. Et je vous invite à réfléchir, à commencer à penser au fait que c'est très possible si c'est pas déjà, ça fait peut-être déjà partie de votre vision, mais de réaliser que nos problèmes physiques ou de santé, c'est tout simplement des messages, que c'est vraiment là pour nous faire réaliser des choses. Et j'ai envie de faire suite puisque je vous ai parlé d'hypnose il y a quelques semaines. Je suis allée chercher en fait un extrait, le début en fait d'un livre de Michael Newton dont je vous ai parlé beaucoup, que j'affectionne énormément son travail et qui m'a permis de vraiment faire la paix, d'accepter l'idée que notre âme est immortelle, que nous avons vécu des vies antérieures et que tout ce que nous vivons aujourd'hui a un sens qui est notre évolution. Et j'ai pleuré en écoutant ces livres, je les ai écoutés en livre audio, j'ai pleuré comme ça se peut pas. Et j'avais envie de vous partager le début du livre de Michael Newton, alors je vais y aller à l'instant. Alors le livre en question s'appelle « Journée dans l'au-delà » et en anglais c'est « Journey of Souls ». Alors vous pouvez le trouver en français ou en anglais. Dans l'introduction de « Souvenirs dans l'au-delà », j'avais expliqué ma formation et mon passé en tant qu'hypnothérapeute pour le moins classique, ainsi que mon scepticisme marqué concernant le recours à l'hypnose pour une régression métaphysique. J'avais commencé ma pratique de l'hypnose en 1947, à 15 ans. Et il ne faisait aucun doute que j'étais de la vieille école et non un partisan du mouvement New Age. Ainsi, quand j'ai involontairement ouvert la porte du monde spirituel avec un patient, j'ai été littéralement assommée. Il existait vraiment une vie entre les vies. Et pour moi, ceux qui recouraient à la régression dans les vies passées considéraient la vie entre les vies seulement comme une limbe brumeuse, se contentant de servir de passerelle d'une vie à une autre. Il m'a bientôt été évident que je devais trouver les étapes nécessaires pour atteindre et débloquer, dans cet endroit mystérieux, la mémoire de leur vie. Après plusieurs années de recherches discrètes, j'ai finalement été capable d'établir un schéma fonctionnel sur la structure du monde spirituel et j'ai réalisé l'importance de ce processus thérapeutique pour un patient. J'ai aussi découvert qu'il importait peu qu'une personne soit athée, profondément religieuse, ou mitigée, avec une vague conviction philosophique, car une fois plongée sous hypnose, dans un état de surconscience approprié, tous étaient constants dans leur témoignage. C'est pour cette raison que je suis devenue ce que j'appelle un régressionniste spirituel, c'est-à-dire un hypnothérapeute spécialisé dans la vie après la mort. J'ai écrit « Souvenirs de l'au-delà » pour offrir au public une information de base en présentant la progression stricte et méthodique des événements, ce qu'est la mort et la traversée, qui nous rencontrons, où nous allons et ce que nous faisons en tant qu'âme dans le monde spirituel, et cela avant de choisir notre prochain corps pour se réincarner. Chapitre 1. Le monde spirituel. Au moment de la mort, notre âme s'élève hors du corps qui a été son hôte. Si l'âme est ancienne et qu'elle a acquis une expérience entre ses vies précédentes, elle sait immédiatement qu'elle est libérée et qu'elle remonte à la maison. Ces âmes évoluées n'ont besoin de personne pour les accueillir. Cependant, la plupart de celles avec lesquelles j'ai travaillé sont accueillies par des guides, juste à l'extérieur du plan astral terrestre. Une âme jeune ou un enfant qui vient de mourir pourrait être un peu désorienté, jusqu'à ce que quelqu'un s'approche et fonde un niveau pour elle. Certaines âmes, comme celle-ci, choisissent en effet de rester sur la scène de leur décès pendant un moment, même si la plupart espèrent la quitter tout de suite. Certes, le temps n'a aucun sens dans le monde spirituel. Les personnes désincarnées qui choisissent d'apporter du réconfort à quelqu'un qui est peiné ou qui ont d'autres raisons de rester pendant un instant sur la scène n'ont pas l'impression d'une perte de temps. Pour l'âme, cela devient le temps présent, par opposition au temps linéaire. Alors qu'elles s'éloignent de la Terre, les âmes font l'expérience d'une lumière de plus en plus brillante autour d'elles. Certaines verront brièvement une obscurité grisâtre et auront la sensation de passer par un tunnel ou une porte. Cette différence entre ces deux phénomènes dépend de la vitesse de sortie des âmes qui, à son tour, est liée à leur expérience. La sensation d'être tirée par nos guides peut être douce ou puissante et dépend de la maturité et de la capacité de l'âme au changement rapide. Au premier stade de sortie, toutes les âmes rencontrent autour d'elles une nébulosité, peu dense, qui s'éclaircit vite, leur permettant de regarder loin. C'est à cet instant que l'âme moyenne voit une forme d'énergie spectrale arriver vers elle. Ce personnage peut être une âme sœur aimante ou deux, mais le plus souvent c'est notre guide. Dans certaines circonstances, quand nous rencontrons un époux ou un ami qui s'est éteint avant nous, notre guide est également proche afin qu'il puisse ainsi reprendre le processus de transition. Durant toutes les années que j'ai passées à effectuer mes recherches, je n'ai jamais rencontré un seul sujet qui avait été accueilli par un personnage religieux important, tel Jésus ou Bouddha. Toujours est-il que l'essence d'amour des grands maîtres issus de la terre est à l'intérieur de nos guides personnels qui nous sont assignés. Au moment où les âmes sont orientées vers l'endroit qu'elles appellent la maison, leur nature a changé. Elles ne sont plus vraiment humaines, au sens où nous le pensons, avec un caractère émotionnel et physique. Par exemple, elles ne sont pas peinées par leur mort physiologique, comme le seraient les gens qui les aiment. Ce sont nos âmes qui nous rendent humains sur Terre, mais sans nos corps, nous ne sommes dorénavant plus des Homo sapiens. L'âme possède une majesté au-delà de toute description. J'ai tendance à considérer les âmes comme des formes d'énergie lumineuse intelligente. Juste après la mort, les âmes se sentent soudainement différentes, parce qu'elles ne sont plus encombrées par un corps temporaire avec un cerveau et un système nerveux central. Certaines mettent plus de temps que d'autres à s'ajuster à cette situation. L'énergie de l'âme est capable de se diviser en parties identiques similaires à un hologramme. Elle peut vivre des existences parallèles dans d'autres corps, bien que cela soit moins commun qu'il n'est dit. Toutefois, en raison de la capacité duale ou multiple de toutes les âmes, une partie de notre énergie lumineuse demeure toujours dans le monde spirituel. Ainsi, il est possible de voir votre mère en revenant d'une vie, même si elle est morte 30 années terrestres auparavant et déjà réincarnée. Une période d'orientation en compagnie de nos guides, qui a lieu avant de rejoindre notre groupe d'âmes, varie selon les âmes et en fonction des différentes incarnations successives pour une même âme. C'est un moment d'intimité pour recevoir des conseils, avec l'opportunité de se délester de toute frustration due à la vie qui vient de se terminer. L'orientation se veut comme un débriefing initial, avec nos guides enseignants, perspicaces et bienveillants, qui procèdent à un interrogatoire plus posé que musclé. La séance peut être de longue ou de courte durée, en fonction des circonstances, de ce que nous avons accompli et par rapport à notre contrat de vie. Des questions karmiques particulières sont aussi passées en revue, mais elles seront l'objet de discussions détaillées et d'un bilan ultérieur au sein de notre groupe d'âmes. L'énergie de certaines ne sera pas renvoyée de suite dans leur groupe. Il s'agit là d'âmes qui ont été contaminées par leur corps physiologique et qui ont commis de mauvaises actions. Quand on commet un méfait, il existe une différence entre l'absence de volonté préméditée et l'intervention malveillante. Les niveaux du mal ou du tort fait à quelqu'un sont soigneusement évalués en fonction des facteurs qui vont de la bêtise à la malveillance, en passant par l'espièglerie ou la malice. Ces âmes associées au mal sont alors emmenées dans des centres spéciaux que certains patients appellent des unités de soins intensifs. C'est là, m'a-t-on dit, que leur énergie est remodelée pour en faire un nouvel ensemble. En fonction de la nature de leur transgression, elles seront rapidement renvoyées sur Terre. Et dans la vie suivante, il est très probable qu'elles choisissent d'être à leur tour les victimes de méfaits ou d'actes de malveillance. Dans le monde spirituel, l'un des principes directeurs est que les méfaits, intentionnels ou involontaires, quelles que soient les âmes, auront besoin d'être réparés sous une forme quelconque dans la vie future. Cela n'est pas considéré comme une punition ou même une pénitence, mais davantage comme une opportunité de grandir d'un point de vue karmique. Il n'y a pas d'enfer pour les âmes, excepté peut-être sur Terre. Certaines existences sont si difficiles que l'âme rentre à la maison extrêmement fatiguée. En dépit du processus de régénération d'énergie amorcé par nos guides qui combinent leur énergie à la nôtre lors de l'entrée dans le monde spirituel, nous pouvons quand même connaître un amoindrissement du flux d'énergie. Dans ce cas-là, le repos et la solitude sont préférables aux célébrations. En fait, bien des âmes qui désirent le repos l'obtiennent avant de retrouver leur groupe. Nos groupes d'âmes peuvent être pleins d'entrain ou de calme, mais ils sont toujours respectueux de ce que nous avons traversé pendant une existence terrestre. Tous les groupes souhaitent la bienvenue à leurs amis, à leur propre manière, avec un esprit de camaraderie et un amour profond. Le retour à la maison est un agréable interlude, en particulier quand il suit une existence physique où il n'y a peut-être pas eu beaucoup de contact karmique avec nos âmes sœurs. La plupart de mes sujets disent qu'on leur souhaite la bienvenue avec des baisers, des rires et beaucoup d'humour, ce que je considère comme une marque ou comme le sceau du monde de l'esprit. À cette occasion, les groupes vraiment chaleureux qui ont planifié les célébrations dans les moindres détails pour l'âme qui revient peuvent suspendre toutes leurs autres activités. À propos de l'accueil reçu lors du retour, l'un de mes sujets a tenu à me dire ce qui suit. Après ma dernière existence, mon groupe a organisé une fête extraordinaire avec de la musique, du vin, de la chanson et de la danse. Ils avaient tout organisé pour que ça ressemble à une fête romaine classique, avec des halles en marbre, des toges et tous les accessoires exotiques répandus dans nos nombreuses vies, comme dans le monde ancien. Mélissa, une âme sœur de son groupe primaire, m'attendait en tête, recréant l'âge où je me souvenais d'elle au mieux, plus radieuse que jamais. Les groupes d'âmes comptent entre 3 et 25 membres, avec une moyenne de 15. Il y a des moments où des âmes de groupes proches désirent se connecter avec chaque personne. Souvent, cette activité implique des âmes plus anciennes, car elles ont beaucoup d'amis d'autres groupes auxquels elles ont été associées pendant des centaines de vies passées. Aux États-Unis, environ 10 millions de téléspectateurs ont vu Chi Things, produit en 1995 par Paramount, et qui a diffusé un reportage sur mon travail. Ceux qui ont vu cette émission sur la vie après la mort se souviendront de l'une de mes patientes, Colleen, qui évoqua une session que nous avions eue ensemble. Elle décrivit son retour dans le monde de l'esprit, où elle se retrouva au milieu d'un bal, dans un décor du 17e siècle, vêtue d'une de ses robes spectaculaires. Ma patiente vit une centaine de personnes arriver vers elle pour célébrer son retour. L'époque et l'endroit qu'elle avait aimé avaient été somptueusement reproduits, de manière à ce qu'elle puisse entamer un processus de renouvellement de style. Ainsi, le retour peut avoir lieu dans deux types de cadres. Une âme peut être accueillie par un petit nombre d'âmes qui la rencontrent brièvement à la porte d'entrée, pour ensuite la laisser en compagnie d'un guide qui la fera passer par une orientation préliminaire. Plus communément, le comité d'accueil attend jusqu'à ce que l'âme retourne dans son groupe spirituel. Ce groupe peut être réuni dans une salle de classe, rassemblé sur les marches d'un temple, ou bien assis dans un jardin, où l'âme peut rencontrer de nombreux groupes dans une atmosphère de salle d'études. Les âmes qui en chemin vers leur groupe d'ancrage passent par plusieurs groupes remarquent souvent que d'autres âmes, avec qui elles ont été associées dans des existences passées, les regarderont et leur adresseront un sourire ou un geste. La manière dont un sujet voit son groupe d'âmes est basée sur son niveau. Bien que les souvenirs d'une atmosphère de classe soient toujours très clairs, dans le monde de l'esprit, la situation scolaire dépend du niveau de développement. Il n'y a pas de garantie d'avoir un haut niveau d'acquis ou de connaissances simplement parce qu'une âme s'est incarnée sur Terre depuis l'âge de pierre. En d'autres termes, on peut maintes fois redoubler de classe. Lorsque je fais des conférences, je dois souvent citer l'exemple de l'un de mes patients à qui il a fallu 4000 ans d'existences successives pour réussir à vaincre sa jalousie. Je peux témoigner qu'il n'est plus jaloux aujourd'hui, bien qu'il ait fait peu de progrès pour lutter contre sa propre intolérance. Certains étudiants ont besoin de plus de temps que d'autres pour comprendre les leçons précises, exactement comme sur Terre. D'un autre côté, toutes les âmes hautement évoluées sont vieilles, en termes de connaissances et d'expériences. Dans Souvenir de l'au-delà, j'ai classé les âmes selon leur niveau, débutant, intermédiaire, avancé, et j'ai donné des exemples d'âmes en expliquant qu'il y avait des degrés et des nuances au sein de ces trois principales catégories. Généralement, les âmes regroupées dans un groupe sont à peu près au même niveau, bien qu'elles possèdent leurs propres défauts et points forts. Ces caractéristiques équilibrent le groupe. Certaines âmes aident le nouvel arrivant grâce aux informations acquises dans leurs propres expériences de vie, en revoyant la manière dont les sentiments et les émotions ont été vécus dans le corps. Chaque aspect de la vie est disséqué, jusqu'à inverser les rôles dans le groupe, afin de procurer une conscience plus aiguë des expériences vécues sur Terre. Quand les âmes atteignent le niveau intermédiaire, elles se tournent vers d'autres centres d'intérêt, ou bien se spécialisent dans des domaines où elles peuvent prouver certaines aptitudes et compétences. Je reprendrai ce point en profondeur au fil des chapitres. Mes recherches furent également marquées par une révélation, la découverte des couleurs d'énergie émises par les âmes dans le monde spirituel.
et qui sont liées au niveau de l'âme. Ce sont des informations rassemblées pas à pas au fil des années. Elles furent d'ailleurs un indicateur de progrès lors des évaluations de mes sujets et permirent d'identifier les âmes vues par mes patients sous hypnose. J'ai ainsi découvert qu'un blanc pur indique une âme jeune et que cette couleur progresse en densité avec son évolution, allant vers l'orange, le jaune, le vert et finalement les gammes de bleu. En plus de ces auras centrales, il existe à l'intérieur de chaque groupe de subtils mélanges de couleurs auréolaires qui se rapportent aux aspects caractériels de chaque âme. Pour être précis, j'ai classé les âmes en partant d'un niveau de débutant pour arriver au niveau de maître. Âme très évoluée, vue avec une couleur indigo, bleu foncé avec des reflets violets. Je suis quasiment sûre qu'il existe des niveaux plus élevés, mais mon savoir à ce sujet est limité car j'en ai obtenu que les témoignages de personnes incarnées. Pour être franc, je n'aime pas beaucoup le terme « niveau » pour identifier la situation de l'âme, parce que cette appellation ternit la diversité des développements atteints par les âmes. Nonobstant ces appréhensions, ce sont mes patients qui ont employé les termes « niveau » afin de décrire où ils en étaient sur l'échelle de l'apprentissage. Ils sont assez modestes sur leur réalisation. Quelle que soit mon évaluation, aucun patient n'a déclaré qu'il faisait partie des âmes évoluées ou supérieures. En revanche, quand ils ne sont plus sous hypnose, avec un esprit autogratifiant tout à fait conscient, ils sont moins réticents à le faire. Plongés dans un état de surconscience durant une séance d'hypnose profonde, les patients me rapportent que dans le monde spirituel, aucune âme n'est méprisée pour avoir moins de valeur qu'une autre. Nous sommes tous dans un processus de transformation en quelque chose de plus grand que notre actuel stade. Chacun de nous contribue à l'ensemble, peu importe si nous nous sommes durement battus avec nos leçons. Si cela n'était pas exact, nous n'aurions pas été créés en premier lieu. Pour avoir examiné les couleurs correspondant aux évolutions, les niveaux de développement, les salles de classe, les enseignants et les élèves, il serait facile de supposer que l'ambiance du monde spirituel est celle d'une hiérarchie. Or, cette confusion serait fausse selon mes patients. Le monde spirituel est hiérarchique au niveau de la conscience mentale. Nous avons tendance à penser à une autorité, comme sur Terre, avec ses aspects tels que les luttes de pouvoir, les conflits pour le contrôle d'un territoire et l'usage d'un éventail de règles strictes à l'intérieur d'une structure. Il y a certainement une structure dans le monde spirituel, mais elle existe à l'intérieur d'une sublime matrice de compassion, d'harmonie, d'éthique et de moralité, bien au-delà de ce que nous pratiquons ici. Pourtant, il existe là-haut un système de valeurs empreint d'une extrême gentillesse, de tolérance, de patience et d'amour absolu. Quand mes patients m'évoquent cela, ils sont mortifiés par le processus. J'ai un vieil ami de faculté de Tucson qui est un iconoclaste et qui s'est opposé à l'autorité toute sa vie, attitude à laquelle je peux m'identifier. Cet ami suspectait que les âmes de mes patients avaient subi un lavage de cerveau en croyant qu'elles contrôlaient leur destinée. Il pensait que l'autorité de toutes sortes, y compris spirituelle, ne peut exister sans corruption et abus de privilèges. Mais mes recherches ont révélé trop d'ordre là-haut. Progresser en prenant ses responsabilités n'implique pas de domination ou de statut de premier ordre, mais plutôt une reconnaissance du potentiel. Ils voient l'intégrité et la liberté personnelle partout dans leur vie entre les vies. Dans le monde spirituel, nous ne sommes pas obligés de nous réincarner ou de participer au projet de groupe. Si des âmes préfèrent la solitude, elles peuvent l'obtenir. Qu'elles ne veuillent pas s'occuper de leurs tâches est également respecté. Un de mes patients m'a dit « J'ai glissé de nombreuses vies faciles et j'aime qu'il en soit ainsi parce que je n'ai jamais voulu vraiment travailler dur. Maintenant, ça va changer. Mon guide dit « Quand tu seras prêt, nous le serons aussi. » En fait, il y a tellement de libre arbitre que si nous ne sommes pas prêts à quitter le plan astral de la Terre après la mort, pour toutes sortes de raisons personnelles, nos guides nous permettront de rester dans les parages jusqu'à ce que nous soyons prêts à retourner à la maison. J'espère que ce livre montrera que nous avons de multiples choix, tant dans le monde spirituel qu'en dehors. À propos de ces choix, il est évident pour moi que le désir de la plupart des âmes est de se montrer digne de la confiance placée en elles. Nous nous attendons à commettre des erreurs au cours de ce processus. Les efforts pour avancer vers une plus grande bonté et être en conjonction avec la source qui nous a créés sont les meilleures motivations de ces âmes qui font preuve d'humilité pour avoir eu l'opportunité de s'incarner physiquement. On m'a souvent demandé si mes sujets voyaient la source de la création pendant les séances.
J'ai déjà dit que je ne pouvais pas remonter le courant vers la source parce que j'étais limitée à travailler avec des sujets vivants. Mais les âmes évoluées m'ont parlé du moment de la conjonction, quand elles rejoignent ceux qui sont les plus saints. Dans cette sphère de dense lumière violette, il existe une présence omnisciente. Je ne sais pas ce que tout cela signifie, mais je sais qu'une présence est ressentie quand nous nous rendons devant notre conseil des anciens. À une ou deux occasions, entre les vies, nous rendons visite à ce groupe d'êtres supérieurs qui se situe à un ou deux niveaux au-dessus de nos guides. Dans mon premier livre, j'ai présenté deux exemples de cette rencontre. Avec celui-ci, je donnerai plus de détails sur ces maîtres qui sont aussi près du Créateur que j'en suis éloignée. Parce que c'est là qu'une très haute source de savoir divin est expérimentée par les âmes. Mes patients appellent cette force énergétique la présence. Je pourrais continuer, j'ai même pas terminé encore. C'est tellement beau. J'espère que ça résonne en vous et que ça vous inspire à lire le livre. Je vais vous mettre les deux liens pour les deux livres de Michael Newton dont je vous ai souvent parlé, donc « Journée dans l'au-delà ». L'autre livre s'appelle « Souvenir de l'au-delà » de Michael Newton, qui est un hypnothérapeute. Vous voyez, tout le long, c'est comme ça en fait. Lui est présent comme narrateur et ce que j'aime, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il garde un côté très scientifique. J'ai l'impression que c'est une exploration. C'est de l'anthropologie ou de l'archéologie dans l'inconscient. Alors, ça me fascine au point où j'ai vraiment hâte de pouvoir pratiquer ce genre d'hypnose pour aider les gens parce que je pensais à ça et je me disais, quand on va voir un médium, c'est le fun parce que le médium nous donne des informations par rapport au futur, par rapport à où on est, notre mission, par rapport à notre passé ou nous permet d'entrer en communication avec des guides ou avec des êtres chers qui sont décédés. Mais par l'hypnose, en fait, on permet à la personne de voir elle-même. Elle ne peut pas avoir accès nécessairement au futur, mais elle peut comprendre d'où elle vient. Elle peut comprendre d'où viennent les obstacles, les challenges, les difficultés qu'elle a dans sa vie et pourquoi ils sont là. Elle peut comprendre qu'elle est guidée. Et ça peut l'amener à être profondément connectée après à l'intangible parce qu'elle a vu elle-même à quel point ça existe. Elle a compris elle-même la structure derrière tout ça. Alors je pense qu'il y a une profonde guérison en fait là-dedans. Et c'est drôle parce que j'avais une amie à qui j'avais dit, quand je lisais justement ces livres-là, je lui avais dit « j'ai tellement hâte d'aller me faire hypnotiser » et ça fait déjà bientôt 2 ans de ça. Je ne l'ai pas fait encore. Il m'avait dit « moi j'ai entendu dire que c'est vraiment pas une bonne chose, qu'on sort de là traumatisé, que ça nous fait plus peur, que ça nous fait plus de peine qu'autre chose. » D'où l'importance de bien le faire avec un hypnothérapeute qui va savoir nous ramener ou si jamais on voit quelque chose de déplaisant. Mais si on axe sur la vie entre les vies, tout ce qu'on va voir, c'est cet amour-là, ces sentiments sacrés que je vous ai nommés dans la lecture. Je peux vous les répéter à l'instant même. Donc on dit, il y a certainement une structure dans le monde spirituel, mais elle existe à l'intérieur d'une sublime matrice de compassion, d'harmonie, d'éthique et de moralité. Il existe là-haut un système de valeurs empreint d'une extrême gentillesse, de tolérance, de patience et d'amour absolu. Alors ces mots-là, compassion, harmonie, éthique, moralité, gentillesse, tolérance, patience, amour absolu, je les ai écrits un peu partout. Je les ai écrits sur un carton, sur mon frigo, je les ai écrits sur des cahiers pour me connecter à cette énergie-là, pour me souvenir que c'est de là qu'on vient, que notre âme baigne là-dedans en ce moment et que tous les guides, tous les maîtres ascensionnés comme Jésus, comme Bouddha, comme il y en a plusieurs, les saints, ils sont tous dans cette énergie-là et on peut tous leur parler. Et ils nous répondent et c'est à nous d'écouter. Et ça, c'est un message que j'ai eu justement au salon il y a 2 semaines où je suis allée voir une médium, mais c'était assez intense comme discussion. Et elle m'a dit, tu dois écouter. Et écouter, ça implique de s'écouter soi, écouter les autres et d'écouter les messages qui viennent à nous. Alors, réapprendre à être intuitif finalement. Alors, ça va passer vite. Je vous invite, si ça vous intéresse, à vous procurer les livres de Michael Newton. Je vais mettre le lien sur ma description d'épisode sur mon blog et vous pourrez passer par ces liens-là. En fait, ce que ça fait, c'est que ça me permet d'avoir un petit pourcentage de la vente à partir d'Amazon, ce qui me permet de financer le podcast et les recherches que je fais et le temps que je mets là-dedans et qui va me permettre de faire grandir aussi ce projet-là. Alors, je vous remercie pour ceux qui m'encouragent de cette façon-là. Et je suis certaine, absolument certaine que ces deux livres-là vont tellement vous faire du bien si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez comprendre plus d'où vous venez. Je tiens à vous apporter aussi une découverte que j'ai faite au salon justement où je suis allée il y a 2 semaines, qui s'appelle les lectures d'aura. Alors, si vous avez dans votre entourage, si vous voyez un jour un praticien, quelqu'un qui fait des lectures d'aura et que vous sentez que cette personne-là est fiable, que vous ressentez que c'est une bonne personne vers qui aller, je peux vous dire que c'est une source absolument incroyable d'informations. Je découvre à peine, en fait, l'aura. C'est il y a 6 mois, justement, quand j'ai rencontré mon maître Reiki, qui m'a parlé, qui m'a dit que j'avais une aura émeraude, que j'ai commencé à m'intéresser à ça, puisque ça faisait 1 an que j'étais certaine que j'avais une aura émeraude. J'ai fini par me dire que je m'étais probablement pas trompée. En fait, c'est ça, j'ai eu la chance de faire dessiner mon aura avec toutes les couleurs et de me faire expliquer le sens de chaque couleur. Et je peux vous dire comment ça apporte une paix, parce que on se rend compte que ce qu'on ressent est réel. Ce qu'on pense de nous, ce sur quoi on travaille se manifeste dans notre aura. Et c'est une super belle façon d'en apprendre aussi, parfois sur des comportements inconscients, sur notre évolution. Alors, je vous dis, c'est si beau déjà d'imaginer les couleurs qu'on dégage, c'est les couleurs de notre énergie, en fait, c'est nos fréquences. Alors, je vous encourage à faire ça. Aussi, la numérologie, dans la dernière semaine, j'ai poussé davantage encore mon étude de la numérologie, comme je vous ai déjà dit. Puis l'épisode 2, c'est quelque chose que je souhaite devenir numérologue à travers tant d'autres choses. Et comme je vous disais, c'est pas facile pour moi parfois de me brancher, mais la numérologie, en fait, en ce moment, me saute au visage puisque je fais la numérologie de plusieurs de mes proches et que je me rends compte, en fait, qu'il y a énormément de choses que je vois qui sont écrites noir sur blanc dans la numérologie des gens. Alors ça me fascine. Alors, si vous êtes intéressé à découvrir la numérologie, je vous invite à faire vos propres recherches ou à me contacter. Je vais commencer, en fait, à offrir des services de numérologie à rabais, puisque j'apprends encore en même temps, et ça me permet d'apprendre tout en vous aidant. Comme je vous dis, les prix sont assez bas, contrairement à ce que ça coûte réellement de se faire faire toute la charte complète, en fait, de numérologie. Alors, je vous invite à me contacter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et l'épisode a passé très très vite. Finalement, j'ai axé beaucoup sur la lecture de Michael Newton. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Parfois, on dirait que prendre une pause de 2 semaines me fait réaliser à quel point ça m'a manqué de vous parler et à quel point c'est quelque chose que je dois faire. Et vous savez, je doute encore. Je doute de moins en moins et même dans mon aura, ça se manifeste. Mon plexus solaire commence à s'éclaircir de plus en plus. Et le plexus solaire, c'est le siège des doutes et aussi du pouvoir personnel. Alors, plus on éclaircit, plus on guérit notre plexus solaire, plus on va pouvoir se sentir fort, en fait. Alors, je sais pour moi que c'est là que ça se passe. C'est aussi le siège de l'anxiété. Alors, je vous ai parlé beaucoup du cœur, en fait, et j'ai découvert que je vous disais que le cœur était le siège de l'âme. Peut-être pas, finalement. Le cœur est peut-être l'expression de l'âme, là, je serais d'accord. Mais il semble, selon mes recherches, que ça fasse beaucoup de sens, en fait, que l'âme est dans le plexus solaire. Et on l'appelle pas plexus solaire pour rien. C'est, en fait, notre soleil, donc notre rayonnement, le feu sacré, le plexus solaire, c'est notre énergie vitale finalement. Et oui, ça prend un équilibre de tous les chakras pour vraiment bien fonctionner, donc ça demande d'être bien ancré à la terre pour avoir un plexus solaire en santé aussi, qui regorge d'énergie. Et donc c'est sûr que j'étudie encore les chakras, pour moi c'est tout un monde très complexe et comme dans chaque discipline, bien, je trouve ça important de vraiment prendre le temps d'acquérir réellement les connaissances pour pouvoir vous en parler fluidement plutôt que de tout simplement lire un article que vous pourriez trouver vous-même sur Internet. Alors, je suis encore en train d'étudier sur les chakras pour le jour où ça va être assez fluide. Eh bien, là, je vais vous faire un épisode là-dessus. J'ai bien hâte de pouvoir vous faire ça. Pour le moment, je vais continuer à toujours aller fluidement justement avec comment je me sens et d'éviter de vouloir vous faire des épisodes qui sont trop académiques puisque je me rends compte que j'ai surtout besoin de partager sur mon processus et que ça fonctionne, qu'il y a beaucoup de personnes que ça rejoint, que ça leur fait du bien. Alors, je vous dis merci d'être là. On est une belle famille. On est dans une époque où la spiritualité prend un regain et je pense qu'il faut être fier de ça, et fier de se trouver, d'en discuter, d'être reconnaissant, d'être plein d'amour, d'être ému, de s'aimer, de trouver vraiment, je vous dis, de trouver son groupe. Alors, réjouissez-vous de cette opportunité-là qu'on a à l'époque d'Internet d'être tous interconnectés. Nous sommes tous un, nous sommes tous toujours connectés. Et maintenant, avec Internet, nous avons la chance de nous connecter à des choses banales, tout comme nous avons la chance de nous connecter aux plus grandes sources d'informations. Tout est là. Alors, c'est une période qui sert à l'éveil de l'humanité puisque nous avons accès à tout ça. Et je vous invite à en profiter. je vous invite à vous réjouir de toute cette chance-là qu'on a. Et vous savez, le mois de mai est un mois de joie, de réjouissance, de retour à votre enfant intérieur, à la joie de votre enfant intérieur. On peut guérir, vous savez, les blessures de notre enfant intérieur tout simplement en lui laissant jouer. Et pour ça, ça demande que votre adulte, que vous êtes présentement, accepte de jouer. Alors, je vous invite à laisser aller, à vous faire plaisir, à faire des choses que vous aimez. Et je le dis pas seulement pour vous, je le dis pour moi aussi. Parce que moi aussi, c'est un effort, parfois, de me laisser être un enfant. Mais c'est comme ça qu'on se connecte à notre âme. Je vous souhaite tout ça. Je vous souhaite tout le meilleur. Et d'ici la semaine prochaine, je vous aime. Faites quelque chose de magique aujourd'hui. C'est ce que je vous invite à faire. À la prochaine. Merci d'avoir été là.